au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
L'unique, le seul sport qui me procure vraiment des plaisirs presque ineffables, c'est spécifiquement le cyclisme.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. En ce long printemps pluvieux qui confine les corps et qui rabougrit les âmes, le besoin surgit, je vous en prends un témoin, d'un grand bol d'air pur. Et voilà pourquoi, dans le cadre du week-end consacré au sport par France Culture, j'ai choisi ce matin de vous parler de la bicyclette. La bicyclette, jadis, naguère et aujourd'hui. Car tout au long de son histoire, une histoire qui court sur deux siècles déjà, son image et sa pratique se sont définies continuellement comme celle d'un magnifique instrument de liberté contre toutes les entraves d'une étroite proximité. Une liberté qui s'est affirmée longtemps contre l'essor d'une industrialisation oppressante, puis, en notre temps, au cœur même du combat écologique, puisque l'effort qu'exigent les vélocipèdes n'emprunte rien aux multiples pollutions que provoquent les autres modes de transport. Mais si l'usage de la bicyclette peut apparaître comme une forme majeure d'individualisme, sa légende s'est construite d'autre part, ce qui en élargit l'intérêt, dans le grand mouvement des fêtes collectives, depuis les fameux 6 jours du Veldiv jusqu'au Tour de France. Le Tour de France, ce tour qui va être lancé dans quelques jours pour sa 105e édition et dont la popularité n'a quasiment jamais fléchi. La bicyclette, c'est aussi la petite reine, une définition qui, en République, peut faire rêver. Mon invité, Paul Dietschy, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Franche-Comté à Besançon, est un précieux spécialiste des relations entre le sport, la société et la culture depuis 2 siècles. Il est gourmand d'une réflexion au centre de laquelle la bicyclette est vouée à affirmer une place très éminente. Donc, mesdames et messieurs, en selle.
J'ai connu un petit gars qui ne ménageait pas sa peine et ses efforts pour devenir très fort, faisant de la gymnastique, de la culture physique, du rugby, du football, du basket, du handball. Il y gagna du souple et de bons muscles souples, à tous ses petits copains pouvait rendre des points. Il glanait les succès, déjà la gloire lui souriait. Mais, faire le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Faire le Tour de France, arriver à Paris en vainqueur, être sacré roi des pédaleurs. Faire le Tour de France. Bien vite il fit l'emplette d'une belle bicyclette, se mit à l'entraînement avec acharnement. Il gagna des épreuves, faisant ainsi la preuve qu'il pouvait des champions revendiquer le nom. C'est alors qu'une grande marque, un beau jour le remarque, lui offrant un contrat, aussitôt il signa, réalisant ainsi le rêve qu'il avait séduit. Oui. Faire le Tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Faire le Tour de France, arriver à Paris en vainqueur, être bois des pétales. Faire le tour de France, faire le tour de France, c'est le rêve de tous ceux qui ont un vélo. La seule espérance du titi, de la fête et du mécano. Faire le tour de France, arriver à Paris en vainqueur, être sacré roi des pédaleurs.
Paul Dietschy, bonjour.
Bonjour.
C'était les Sœurs Étienne qui chantaient pour notre bonheur en 1950, faire le tour de France pour notre bonheur et aussi pour introduire notre conversation. Il me paraît qu'il y a dans cette chanson beaucoup des éléments que nous allons avoir à rencontrer, la part de rêve, la part de concret aussi, la place des marques commerciales, la volonté de promotion sociale peut-être, et puis Paris qui est le centre de tout, avec ce tour de France qui restitue toute la géographie de l'Hexagone.
Oui, c'est une belle synthèse de ce qu'est le cyclisme à l'époque, c'est-à-dire le sport préféré des Français, un sport de proximité parce que c'est un sport immédiat. On a un vélo, on peut s'imaginer monter le Tourmalet, arriver premier au Parc des Princes, puisque c'est là où est l'arrivée du Tour, et puis aussi monter très vite dans l'échelle sociale, parce que les coureurs cyclistes, dans la première moitié du XXe siècle, on est en 50, eh bien beaucoup sont devenus assez riches, voire très riches, grâce à ces contrats avec des marques, grâce à des publicités.
Comme les footballeurs d'aujourd'hui, moins tout de même.
Moins qu'aujourd'hui, mais il y a quand même des carrières qui sont tout à fait remarquables. Et un historien américain qui s'appelle Christopher Thompson, notamment, dans un livre qui s'appelle « Tour de France, Cultural History », a montré que les sommes qui étaient gagnées à la belle époque étaient tout à fait conséquentes. Toute proportion gardée, c'était un peu les Zidane, finalement, de l'époque.
Vous pensez que le football s'est un peu substitué dans l'adhésion populaire au Tour de France, enfin, l'ensemble des compétitions cyclistes, évidemment, au Tour de France?
Oui, il y a certainement une raison qui est un peu la même qu'en Italie, c'est que ce sont des années, évidemment, d'urbanisation de la population française. Et le football, évidemment, c'est un sport avant tout urbain, même si la passion en France pour le football a longtemps été moyenne. Le cyclisme est plutôt un sport à la fois d'ouvriers, mais aussi un sport très rural, puisque beaucoup de ces champions viennent de la campagne et que, évidemment, le vélo, c'est d'abord leur premier moyen de locomotion.
10 ans plus tard, au début des années gaulliennes, c'est Antoine Blondin, le romancier qui a été aussi le plus célèbre des chroniqueurs du Tour, qui disait « Le général de Gaulle dirige la France 11 mois sur 12. En juillet, c'est Jacques Godet. » Jacques Godet, c'est le directeur du Tour à l'époque.
Oui, c'est le successeur du patron Henri Desgranges, mais aussi le fils d'un des deux fondateurs de l'auto et un peu la cheville commerciale en quelque sorte du Tour, Victor Godet, qui prend la succession de Desgranges en 1940, et puis qui règne sur ce Tour, évidemment, s'habille avec des tenues presque coloniales, comme s'il traversait finalement des contrées un peu sauvages, guide aussi, dirige toute une armée de commissaires qui surveillent évidemment les coureurs, et dans ces liens incestueux qui sont ceux du Tour de France, parce que le Tour de France s'est organisé par l'équipe, qui ensuite commente l'événement.
Le journal, l'équipe.
Le journal, l'équipe, le quotidien. Évidemment, Jacques Godet a une position de pivot, d'organisateur et ensuite de commentateur.
Alors nous allons beaucoup, bien sûr, dans cette émission consacrée à la bicyclette, Paul Dietschy, nous allons beaucoup parler du Tour de France, mais pas seulement. Je voudrais que nous évoquions la longue durée de son émergence. On ne sait pas toujours qu'il faut remonter au début du 19e siècle.
L'origine du vélo vient du Grand-Duché de Bade, d'un petit aristocrate allemand, le baron de Drey.
Drey, d'où Dresienne, on peut l'annoncer
tout
déjà.
Tout à fait, qui a fait des études scientifiques, et est un inventeur. Il a inventé notamment une machine pour transcrire sur des partitions les notes du piano. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse aussi à la question de la mobilité, Et c'est vrai que ce début du 19e siècle, c'est un moment de révolution de la mobilité, que ce soit sur les routes, sur les canaux, avant évidemment les locomotives. Et donc, il invente en 1817 ce qu'il appelle une machine à courir. C'est un cadre avec deux roues, et puis la roue avant est montée sur un axe pivotant, guidé par une sorte de gouvernail, et qui permet donc d'avancer un peu plus vite. Hein, il commence par faire 13 kilomètres avec cette machine, qui ensuite est brevetée immédiatement en France. Hein, le brevet est vendu sous le nom de vélocipède, c'est-à-dire vélox, la vitesse, et pède, évidemment, le pied, donc la vitesse à pied, en quelque sorte, bon, qui, finalement, révèle quoi ? Révèle d'abord une nouvelle attention au corps, c'est le moment où la gymnastique commence à se développer, c'est le moment aussi où les hommes font attention à leur corps. Hein. En Angleterre, beaucoup de ces dandies vont s'intéresser aux vélocipèdes, on va même l'appeler dandy horse.
Oui, c'est une rencontre intéressante et significative, on retrouvera dans la longue durée ces relations particulières entre la bicyclette et la mode.
Oui, même si alors au 19e siècle, c'est d'abord les élites finalement, alors que au 20e, le vélo, la bicyclette, c'est évidemment d'abord un sport populaire.
Donc, il faut pouvoir se payer en particulier des bottes, parce que les premiers qui utilisent la draisienne expliquent que comme les bottes leur servent de frein, il faut les changer souvent.
Oui, et il y a le modèle, alors c'est quelque chose qu'a expliqué Georges Vigarello, c'est les techniques corporelles souvent utilisent des modèles. C'est le modèle d'abord du cheval, hein, qui est évidemment utilisé pour chevaucher cette draisienne.
Georges Vigarello, le grand historien, le prestigieux historien de l'histoire du corps et des comportements physique des uns et des autres, oui. La comparaison avec le cheval est intéressante, d'ailleurs. On la voit se développer tout au long du 19e siècle, sous la plume des chroniqueurs et même des romanciers.
Oui, et le cheval, c'est aussi l'hippisme, c'est-à-dire la matrice de tous les sports, puisque les Kazakhs que vont porter les premiers champions de vélocipèdes, le successeur de la draisienne, sont inspirés évidemment des Kazakhs, des jockeys. Le goût de la compétition, du sport, vient de l'hippisme, sans compter évidemment que le cheval, c'est un moyen de transport extrêmement commun. Et le souhait de beaucoup de jeunes gens au XIXe siècle, c'est de monter à cheval. Au XXe, ce sera évidemment de monter sur une motocyclette ou un engin à moteur.
Il n'est pas sans importance que la bicyclette naisse plutôt dans des milieux aisés.
Oui, si on reprend évidemment l'évolution, c'est la création du vélocipède, mais plus celui évidemment du baron de Dreux, mais celui d'un carrossier qui s'appelle Michaud, qui est installé sur les Champs-Élysées, et dont le fils en 1861 a l'idée d'installer des pédales sur la roue avant. Et c'est donc le début, en quelque sorte, de la bicyclette.
La Micheline, dit-on, du coup. Le mot n'a pas duré.
Non, n'a pas duré, mais on appelle aussi le vélocipède des machines. Et c'est une machine qui n'est pas facile à dompter, parce que, bien évidemment, il faut garder l'équilibre. Et puis, il n'y a pas de roue libre. Donc, gare, évidemment, au retour de pédales sur les pieds, hein, qui peuvent faire mal. Mais ce vélocipède, il est intéressant, parce que il naît à un premier moment du début du sport en France, un peu oublié, le Second Empire, où il y a une vraie passion pour le corps et qui voit naître, d'ailleurs, les deux premières compétitions de vélocipèdes. Hein, en 1868, c'est dans le parc de Saint-Cloud. Et puis la première course sur route, en 1869, entre Paris et Rouen, qui est remportée par un Anglais, qui met quand même plus de 13 heures pour accomplir cette distance.
Il y a encore un sentiment de péril qui ajoute au plaisir. Comme on tombe de cheval, on tombe de bicyclette. Et effectivement, on tombe souvent. Je vois que Mark Twain relatait ainsi sa première sortie. Après 8 jours de cours, il fallait 8 jours déjà pour apprendre à tenir sur une bicyclette, sur un vélocipède. Pour monter sur la machine, j'obtins l'assistance d'un garçon perché sur un montant de porte. Il ne me quittait pas des yeux et il n'avait pas sa langue dans sa poche. À ma première chute, il affirma qu'à ma place, il ne s'habillerait qu'avec des coussins. La seconde fois, il me conseilla de commencer par apprendre à faire du tricycle. Après mon troisième échec, il me dit que je ne parviendrais même pas à rester debout sur un chariot.
Oui, la difficulté du vélocipède est ensuite doublée dans les années 1870 par l'invention du grand bi. Alors je ne sais si Mark Twain l'évoque, c'est-à-dire c'est une extension du vélocipède, mais avec une roue avant qui fait jusqu'à 1,60 m, voire plus de diamètre. On est perché, évidemment, sur cette machine. C'est d'abord quelque chose qui est construit au Royaume-Uni. Et pour monter, il faut évidemment un escabeau. et il est très difficile de rester en station arrêtée sur cet engin.
Les pédales sont toujours accrochées à la grande roue du vent.
Les pédales, évidemment, sont toujours sur la roue avant. C'est quelque chose qui fait passer, d'une certaine manière, le vélocipède de la France, qui a été évidemment vaincu et dont beaucoup d'ateliers ont été bouleversés par la Commune, à l'Angleterre, hein, qui finalement prend le relais avec le Grand Prix. Il y a des clubs. Un Américain fait même le tour du monde, de San Francisco à Yokohama, dans les années 1970, sur un Grand Prix.
L'époque de Jules Verne.
Voilà, tout à fait. Mais c'est quand même réservé, évidemment, à un petit groupe de sportifs, parce que c'est particulièrement dangereux. Et donc, finalement, ça ne permet pas une très très grande diffusion. La rupture, évidemment, c'est en 1880, l'invention de la chaîne.
Comme toujours, la technique va jouer un rôle essentiel. La chaîne, et puis ensuite le braquet. Chacun sait que le braquet constitue le rapport entre le nombre des dents du pignon et celle du plateau. Chacun le sait très bien, ma science est récente.
Tout à fait, et c'est évidemment, les amateurs de cyclisme disent avec volupté, hein, le rapport, évidemment, plus le rapport est important, plus leur puissance est en jeu.
Mais on peut déjà changer de braquet ?
Alors non, à l'époque, d'autant que le changement de vitesse est interdit dans le Tour de France, j'anticipe un peu, jusque dans les années 30. Hein. Donc pour le moment, ce sont des vélos, hein, la bicyclette naît évidemment avec la chaîne dans les années 1880, qui sont en général à un seul rapport, mais avec la chaîne qui permet d'entraîner la roue arrière, évidemment la sécurité est beaucoup plus grande, et surtout le vélo désormais a deux roues égales.
Il coûte moins cher aussi, parce qu'on sait le faire à la chaîne. Au lieu d'en faire 5, 6, 8, 10 comme les premières automobiles, on commence d'en faire des milliers. Et cette relation entre la technique et les données sociales qui entourent l'usage de la bicyclette, ça n'a pas cessé jusqu'aujourd'hui, de fait. L'invention récente de ce petit ajout électrique qui permet secrètement ou ouvertement, d'accompagner l'effort, est topique à cet égard, non ?
Oui, alors c'est aussi une rupture finalement dans la culture vélo, hein, où il faut d'abord compter sur ses propres jarrets pour avancer. Aujourd'hui, finalement, le vélo électrique, c'est une déclinaison un peu moderne de la mobylette, mais qui ne pollue pas, hein, qui est un peu plus élégante.
C'est essentiel de ne pas polluer, parce que c'est un aspect fondamental de différenciation entre la bicyclette, ça a duré jusqu'aujourd'hui avec les autres modes de transport qui viennent élargir, vous le disiez il y a un instant, qui viennent élargir la dimension géographique de l'espace des habitants de la France et de l'Occident en général.
Oui, même si les cyclistes au début du XXe siècle pédalent souvent dans des environnements qui sont extrêmement pollués.
Ça, c'est pas la faute des cyclistes.
Ce n'est pas la faute des cyclistes, mais finalement, la bicyclette qui est produite à Saint-Étienne, qui est produite à Montbéliard, voire à Dijon, eh bien, elle procède aussi de ce moment de l'industrialisation. Mais elle permet aussi, évidemment, de sortir de la ville.
Vous pensez donc à Peugeot, vous pensez à l'usine de Valentigney, etc.
Tout à fait, Peugeot à Valentigney, et puis Terreau aussi à Dijon. D'autres marques qui sont oubliées, comme Alcyon, Clément.
Alcyon qui a donné son nom pendant longtemps à la première équipe du Tour de France.
Oui, très tôt, ces industriels, ils vont évidemment faire de la publicité autour du sport.
Vous parliez de la mode, c'est probablement à ce tournant du 19e et du 20e siècle que l'on voit s'affirmer encore davantage, du côté des femmes en particulier, les liens entre cette mode et la bicyclette. Cela va durer longtemps. Je vous ai réservé une archive des actualités mondiales, qui remonte à la période de Vichy. On est en juillet, le 18 juillet 1941, consacrée, puisqu'on ne peut pas parler de politique, consacrée aux relations entre la bicyclette et la manière dont on habille les femmes.
De Marsan s'est ouverte dernièrement l'exposition rétrospective de la bicyclette. Archéologie du cyclisme. Voici la Drésienne de 1818, engin malheureusement peu stable. Avec la catène, le vélo à pédale était né. Bientôt, le Grand Bi voyait le jour. En descendre était toute une affaire. L'ancêtre du frein. Et en 1900 naissait l'élégance vélocipédique. Les hommes, écrivait alors un humoriste, doivent beaucoup de reconnaissance à la bicyclette parce qu'elle a rendu les femmes aussi laides que. Aujourd'hui, la mode cycliste a droit de citer dans la haute couture parisienne. Voici Yvonne, un chemisier en laine écossais. Les manches sont très serrées au poignet. Maryse, à gauche, est inspirée de la combinaison des mécaniciens. Yolande est une veste en lainage rouge. Et enfin, Marco, ensemble de Raphaël, égayé par un gilet piqué cloqué blanc. Le vélocipède, d'autrefois, est devenu aujourd'hui le moyen de transport des Parisiens. Paris, 1941. Tandem, vélo-taxi. Plus que jamais, la bicyclette mérite son surnom de petite reine.
Oui, si l'on s'en tient à 1900, un demi-siècle plus tôt environ, on observe qu'une circulaire du préfet de police à Paris autorise exceptionnellement les femmes à porter un pantalon pour faire de la bicyclette. Usage qui sinon est strictement interdit par d'autres textes.
Alors il y a à la fois évidemment le problème de la confusion avec un homme. D'ailleurs on invente le bloomer pour que les femmes puissent finalement avoir un mélange de jupe et de pantalon et ne pas se prendre les plis de leur robe dans les roues. Mais ça fait, ça fait partie aussi d'un ensemble de prévention contre les femmes à vélo. Hein, certains tenants d'éducation physique, comme le docteur Tissier, dit que ça peut provoquer des hémorragies pour les femmes.
Puis on ne sait pas où ça va les emmener, vers quels amants perfides. Alors, ou exquis.
Il y a même un docteur britannique qui dénonce l'excitation que procurerait aux femmes la bicyclette. Et donc, la bicyclette serait liée évidemment à une sexualité qui pourrait être débridée. Et d'ailleurs, les publicités de l'époque joue un peu là-dessus, parce qu'on voit des femmes chevaucher, entre guillemets, des vélos, les cheveux au vent, hein, et donc il y a une sorte d'érotisation, évidemment, de la bicyclette via les femmes.
Vous évoquez, Paul Dietschy, cette sorte de dialectique entre le temps de la bicyclette comme instrument d'une domination sociale, ou en tout cas une bicyclette réservée aux classes les plus riches, les plus aisées, en Angleterre ou ailleurs, et puis d'autre part, le moment où la bicyclette devient largement un sport populaire. Il y a l'arrivée des compétitions qui, d'abord, sont celles qui rapprochent des compétitions hippiques, par exemple, réservées à des messieurs en haute forme et en jaquette grise, mais des femmes en grande toilette, et puis le passage progressif vers, par exemple, le Veldiv, vers les six jours. Avant de parler du Tour de France, on peut évoquer cette compétition.
Oui, cette compétition des six jours, elle procède d'une passion pour un nouvel équipement sportif qu'on trouve pratiquement dans toutes les grandes villes et moyennes en France, c'est le vélodrome. Alors le vélodrome, il est d'abord évidemment ouvert, hein, au ciel. Il y a le Parc des Princes, par exemple, en 1897. Et puis, progressivement, on va construire des espaces clos. Et en 1909, c'est évidemment le vélodrome d'hiver qui est inauguré boulevard de Grenelle.
Et qui, bien avant d'être le lieu de la tragédie que nous savons, en 1942, est un lieu de réjouissance populaire.
Oui, c'est une sorte de Bercy, hein, d'aujourd'hui, finalement. Tous les week-ends, il y a des compétitions de cyclisme, mais c'est un spectacle total dans le sens où il y a à la fois, évidemment, les cyclistes qui font le tour de pistes de 250 mètres à peu
pendant
près.
Pendant 6 jours.
Alors, pas forcément pendant 6 jours, il peut y avoir évidemment
les
6 jours, ils se relaient, hein, mais il peut y avoir aussi des compétitions plus ponctuelles. Et pendant ces épreuves de 6 jours, il y a évidemment des restaurants dans ce Veldiv, il y a des orchestres, on danse. On fait la fête, donc ce n'est pas un seul spectacle, parce qu'évidemment, si on regarde les coureurs tourner pendant 6 jours, on s'ennuie un petit peu.
Eh bien, il y a un très beau texte de Paul Morand, d'ailleurs, je crois que c'est dans Ouvert la nuit, sur les 6 jours, je vous y renvoie. Mais à Paul Morand, aujourd'hui, j'ai préféré Léon Zitrone, qui de sa façon ineffable, le 3 mars 1951, vous allez voir, évoque le spectacle des 6 jours, au Veldiv.
Je vous parle d'un vélodrome d'hiver surbondé, surchauffé, surexcité. La foule parisienne, des loges de pesage où 8000 bouteilles de champagne ont été bues, je crois, en 72 heures, jusqu'aux places populaires à 50 cents, vient d'assister à un spectacle tout simplement prodigieux. Tantôt haletante et retenant son souffle, comme maintenant, tantôt grondant d'enthousiasme, tantôt délirant. Délirant du parterre jusqu'à la verrière des cintres, la foule a vu ce que depuis 25 ans, nul n'avait encore vu dans un 6 jours. Car voici un quart de siècle, les 50e 6 jours auxquels j'assiste, et je dois vous avouer que je n'ai jamais vu cela. À 9h du soir, la bagarre a commencé, soudaine, imprévisible, lancée par l'équipe belge Breland Adriansens. Les deux hommes étaient à quatre tours de leader, qui se trouvaient à ce moment-là être les jeunes Suisses Brun et Bucher, lesquels, ayant débuté seulement cet hiver en cyclisme sur piste, ont voulu montrer au public parisien qu'ils étaient vraiment de grands champions. Et bien tout à l'heure, Brulande a monté en haut du virage, s'est dressé sur ses pédales et comme un fou, comme un bolide, a démarré. Il a poussé une pointe à 40 000 à l'heure, il a fait le trou, il a pris 100 yards au peloton frappé d'étonnement, il a passé le relais à son équipier Adrian Sens et en un clin d'œil, les Belges prenaient un tour. Sans s'arrêter, aussitôt l'équipe repartait à l'attaque. Un deuxième tour, un troisième tour, les voilà à un seul tour des équipes de tête. En 10 minutes, les voilà revenus de 4 tours de retard à un tour seulement. Ça, je dois le dire, ce fut un grand sport, un de ces moments dont les assistants se souviendront toute leur vie et on dira, je pense, le samedi 3 mars 1951, Brulande et Adrian Sens ont pris 3 tours, comme on se rappelle qu'en 1925, les Hollandais Van Kempen Bell prirent 2 tours devant les banquettes vides du Vélodrome à 6 heures du matin. Mais nos Belges aujourd'hui, nos Belges Brian Adriansen, s'étaient littéralement déchaînés. Brulande, qui est directeur des abattoirs à Bruxelles et mari d'une femme très riche, se moque de l'argent. Il est professionnel, mais il a gardé son âme d'amateur. Il court pour son plaisir, pour gagner. Il est grand, brun, élancé. La moustache à la Clark Gable souligne un nez aquilin et volontaire. Il a une façon de démarrer tout à fait à lui. C'est soudain. Il se soulève, comme il l'a fait tout à l'heure, de toutes ses pédales. Il se met littéralement en perte d'équilibre, se rabat sur son guidon et la tête dans les papillons de la roue avant. Le derrière, pardonnez-moi, le derrière aigu pointé vers le ciel. Il pédale comme étourdi de sa propre vitesse. Son coéquipier, Adrian Sens, lui, est un petit monsieur râblé, presque ventripotent, aux yeux d'un bleu lavande un peu hagard, évidemment. Maintenant à cause de la fatigue accumulée, mais ce soir, adieu la fatigue, volatiliser la fatigue, Adrian Sens est là pour prendre des tours avec Brulande. Il pédale en un an, ce n'est pas joli à voir, il pousse des cris rauques absolument inintelligibles, je dois dire que je ne comprends pas le flamand, et porté par les acclamations de la foule, il se dresse lui aussi sur son vélo, le fait aller de droite à gauche, de gauche à droite comme un routier en montagne par exemple, et rejoint la queue du peloton.
Alors dites-moi Paul Dietschy, vous qui êtes un spécialiste éminent de... des aspects sociaux du sport. Est-ce que 65 ans plus tard, on se rappelle encore ces derrières aigus pointés vers le ciel qui marquèrent ce début de mars 1951 au Vélodive?
Alors, on se les rappelle plus parce que la culture du vélodrome a changé. C'était une culture très populaire. Aujourd'hui, les vélodromes existent encore. Il y en a un tout neuf à Saint-Quentin-en-Yvelines qui a été construit par la Fédération française de cyclisme. Mais ils servent avant tout d'usine à champions pour les Jeux olympiques. Pour des champions du monde qui sont médiatisés mais qui n'intéressent pas trop le grand public. Donc aujourd'hui, ce que l'on se rappelle, c'est avant tout, évidemment, d'abord les péripéties du Tour de France, les chutes, les tragédies et aussi les tricheries.
Alors le Tour de France, nous y voilà, c'est un compendium de ce que nous allons avoir à évoquer, que vous venez de nous proposer brièvement. Rappelez-nous d'abord, si vous le voulez bien, dans quelle ambiance générale, à la fois politique, sociale et sportive, est née cette idée du Tour de France en 1903.
Alors le Tour de France, il est de plein pied dans la grande histoire. D'abord, il procède évidemment de l'intérêt des médias de masse pour le cyclisme. Le petit journal, le millionnaire comme on l'appelait à l'époque, qui a organisé la première course cycliste en 1891. Et les années 1890 sont des années de développement de la passion pour le cyclisme. Il y a un quotidien qui s'appelle Le Vélo, qui a pignon sur rue, qui tire à 80 000 exemplaires, et surtout qui est recherché par tous les industriels du cycle, qui veulent évidemment y faire passer leur publicité. Sauf que son directeur, Pierre Giffard, est un Dreyfusard.
Fatale générosité, fatale enthousiasme pour la vérité.
Tout à fait, alors que évidemment, ses commanditaires, ses industriels, comme le comte de Dion, ce sont des anti-Dreyfusards acharnés. Ce qui fait que le comte de Dion, notamment, va s'appuyer sur un ancien coureur cycliste licencié en droit, Henri Desgranges, qui a également des prétentions littéraires, un autre journaliste qui s'appelle Victor Godet, pour créer un journal concurrent au vélo qui s'appelle l'Auto-Vélo. Cet Auto-Vélo est accusé de plagiat, il est obligé de changer de nom en auto en 1903, mais en 1903, l'automobile, évidemment, c'est la mobilité de quelques-uns, des très riches. Donc, ce n'est pas un marché, évidemment, qui est extrêmement porteur dans la presse. Ce qui fait que, pour les dirigeants de l'auto, il faut inventer un événement pour couler, en quelque sorte, le Dreyfusard vélo.
Et comme si souvent, sur un coin de table, dans une brasserie, deux ou trois hommes ont cette idée-là. En tout cas, c'est la légende.
C'est la légende, parce qu'il y a déjà un Tour de France automobile qui précède celui du vélo. En tout cas, c'est, si on lit l'auto et les récits, notamment de Géo Lefebvre, on y croit. Hein. Mais en tout cas, bon, la paternité est attribuée à un des rédacteurs de l'auto, qui s'appelle Géo Lefebvre, qui dit « J'ai trouvé l'idée pour sauver le journal, un Tour de France ». Un Tour de France, au départ, qui n'a que 6 étapes, hein, de Paris à Lyon, Lyon-Marseille, et retour par Toulouse et Bordeaux. Donc il faut imaginer des étapes de plus de 300, 400 kilomètres.
D'autre part, il faut replacer cette idée du Tour de France dans un climat général qui est celui du premier entre-deux-guerres, celui du nationalisme blessé. C'est au fond un hommage à certains égards à celui qui, pour nous autres historiens, reste le premier des géographes dans l'histoire, c'est-à-dire Vidal de la Blache. On est vraiment proche du tableau historique de la France et peut-être aussi du Tour de France des deux enfants, ce best-seller absolu, 6 millions d'exemplaires vendus, qui racontait l'histoire de deux petits-enfants venus de Falsbourg et redonnant à connaître l'entièreté, la générosité et la force du territoire français dans sa complexité.
Tout le discours sur le Tour de France, et aujourd'hui c'est encore une des clés du succès, c'est évidemment un discours sur la richesse, la diversité de la France qui fait en même temps son unité.
D'ailleurs, les caméras de France 2 montrent cela tout au long du Tour de France en direct.
Oui, d'autant que c'est le premier intérêt, puisque en général, le vainqueur est déclassé quelques années après. Donc finalement, la compétition elle-même n'a plus beaucoup d'intérêt. Avant 1914, évidemment, pour beaucoup de Français qui sont passés par l'école tertio-républicaine, le livre de lecture, hein, Tour de France par deux enfants, c'est peut-être le seul livre qu'on a lu, ou parfois que l'on possède. Donc, le Tour de France est aussi celui des compagnons. Et d'ailleurs, un compagnon avait fait, dans les années 1870, un Tour de France à vélocipède.
D'ailleurs, on rejoint en somme le mot de Georges Sand qui pourrait s'appliquer, la chevalerie errante de l'artisan.
Tout à fait. Et d'ailleurs, les premiers coureurs cyclistes sont souvent issus de milieux ouvriers, de milieux artisans. Donc, il y a évidemment une communauté d'esprit. D'autant que le vélo, c'est un sport mécanique, il ne faut pas l'oublier, et donc qui est le fait avant 14 aussi de beaucoup de petites officines, soit de production, de réparation. Donc on baigne dans cette culture évidemment technique. Et puis il faut dire que le Tour de France d'avant 14, il est connu avant tout par quoi ? Par les récits qu'en font l'auto, donc évidemment un récit légendaire. On le suit essentiellement en ville lors des arrivées, des étapes, qui parfois d'ailleurs provoquent chahut lorsque le concurrent local n'arrive pas le premier.
Je parlais de l'aspect politique. Il est notable que c'est seulement en 1906 que les Allemands ont autorisé le Tour de France à pénétrer en Alsace-Lorraine et que la tension ayant cru, on a refusé ensuite cette pénétration du Tour en Alsace-Lorraine à partir de 1911. Il y a un autre aspect qui frappe dans ce premier Tour de France, c'est son caractère profondément rural. Vous disiez que l'origine sociale de beaucoup de coureurs était précisément enracinée dans la glèbe, comme disait à l'époque Géo Lefèvre lui-même. Écoutez ce texte de Géo Lefèvre, le père donc du Tour de France, et il est vraiment daté, vous allez voir. Un villageois, à l'heure où le soleil rougit puis disparaît à l'horizon, s'assoit sur le banc de bois qui orne le seuil de sa demeure. Il tire sa pipe et, en une instinctive béatitude, il se repose d'avoir travaillé la terre depuis l'aube. Et soudain, un nuage de poussière s'élève là-bas sur la route. Le villageois le suit des yeux, car il vient vers lui, il grandit. Et comme des démons blancs, trois ou quatre hommes passent devant lui, à toute allure, comme en un vol léger, tant leurs bicyclettes, poussées par le rythme rapide de leurs jambes, semblent à peine frôler la route. Les démons ont disparu, et d'autres paraissent et fuient à leur tour. « C'est peut-être bien le Tour de France !» opine la femme, qui est venue rejoindre le villageois sur le banc. « Ah ben oui, le messager en a parlé, journal Le Messager. C'est la course des vélocipèdes d'un journal de Paris, l'Auto. » Géo Lefèvre, comme vous l'avez dit, est précisément l'homme de l'Auto. L'Auto, comme il l'appelle. Les imaginations trottent et le souvenir du passage de ces hommes qui venaient de Paris pour revenir à Paris après avoir fait le Tour de France demeure ineffaçable en la mémoire du villageois. Je trouve ce texte assez parlant, non, Paul Dietschy ?
Tout à fait, parce qu'il oppose évidemment l'immobilité de la campagne à la mobilité des hommes de la ville, qui ne font que traverser une campagne qui est un décor. Bon, il y a tous les clichés, évidemment, sur les paysans, qu'on retrouve dans la littérature française aussi, jusque dans les pièces de Molière, par exemple. Et puis, en même temps, on voit que la campagne, ce n'est pas un lieu isolé. La presse régionale s'est développée, les chemins de fer du plan Fraissinet ont permis d'irriguer la campagne. Donc, cette découverte, ce n'en est pas vraiment une. Mais, bien évidemment, le discours de l'auto, c'est aussi le discours du progrès. Et le progrès, ça passe par la mobilité.
Alors, sur ces coureurs de la première génération, Je vais vous donner à entendre une archive qui évoque un épisode qui est resté extrêmement fameux. Il s'agit du coureur Eugène Christophe. Vous allez voir ce qu'il a fait. Il s'agit de l'étape du col du Tourmalet en 1913. Et c'est un extrait des archives de l'ORTF des années 1960, je n'en sais pas davantage.
J'avais 18 minutes d'avance en haut du col du Tourmalet en 1913. Desgranges avait fait un pointage, n'est-ce pas? Et j'avais donc à cette époque-là 18 minutes d'avance. C'est en descendant le Tourmalet que mon tube de pivot de ma fourche a cassé et que j'ai évité la chute, mais j'ai eu de nombreux kilomètres à faire avant de trouver une petite forge à Sainte-Marie-de-Campan pour faire ma réparation. Et vous parlez d'un martyr quand on voit tous les autres camarades, Petit Breton, Tiche, enfin tous les autres qui me passaient à 50 à l'heure dans la descente et moi qui disais où vais-je trouver une maison, comment vais-je pouvoir, parce que voilà, on m'a souvent fait des compliments, bah, les compliments, tous ceux qui sont persévérants, tous ceux qui ont la conscience professionnelle, et ben, ils ont droit aux mêmes compliments. J'avais cette conscience professionnelle, une maison me payait, puis j'avais la foi, je voulais faire le Tour de France. J'ai même réussi, au bout de quelques kilomètres, de trouver une pauvre dame, une vieille dame qui a 80 des années maintenant, que j'ai revue à Sainte-Marie-de-Campan il y a 4-5 ans. Et elle m'a indiqué une forge. Je me suis écarté un petit peu de la route. Là encore, j'ai un frein de règlement, je me suis écarté de la route. Mais enfin, il n'y a pas un commissaire qui a pensé. Je me suis écarté au moins 200 mètres pour aller chez un petit forgeron. Et j'ai forgé un bout de ferraille. Oui, j'ai reforgé. C'est pas mon tube que j'ai frappé dessus. Mais j'ai forgé un bout de ferraille, un boulon de 22 mm que j'ai épaulé à la forge. Ensuite, j'ai fini d'épauler à la lime pour aboutir mon tube, pour rassembler mon tube qui était cassé au bout du renfort. J'ai donc à un endroit, j'avais 16 mm. Et puis l'autre endroit, 22, j'ai fini l'ajustage à la lime, j'ai percé et goupillé pour assembler le tout. Ensuite, j'ai remonté mon vélo, la femme du forgeron m'a donné un camion de pain, j'ai rempli mon bidon un peu d'eau et je suis reparti avec je ne sais combien de retard, je crois voisin de 4 heures de retard. Et j'ai même fini au Lampion le soir, j'ai terminé le Tour de France, j'ai dans une place encore honorable. Je ne peux pas préciser si c'est 7e ou 9e, ma mémoire me fait un peu défaut pour l'instant, mais j'avais encore une place honorable et c'est ce qui m'a fait ma grande notoriété, ma grande publicité. Je dis pas ça, c'est pour me déléguer, mais c'est pour les jeunes gens qui peuvent m'écouter.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Cette notoriété d'Eugène Christophe est née en particulier de cet épisode, ce qui n'est pas sans signification.
Oui, il se met en scène et la presse le met en scène comme une sorte de démiurge.
Il parlait remarquablement bien.
Oui, tout à fait. Peut-être il est passé par l'école de la Troisième République, il a appris finalement un français courant. Et également, c'est quelqu'un qui a évolué socialement. Donc ça, quelque chose qui a évidemment pu jouer. Mais dans ce récit, c'est le forgeron finalement qui arrive à transformer sa machine. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, l'assistance est interdite aux coureurs. Donc il se débrouille. Quand on voit aujourd'hui évidemment les cars, les armées de mécaniciens, c'est quelque chose qui fait évidemment sourire. Mais en même temps, une compétition qui a quelque chose à voir avec les trails d'aujourd'hui, avec l'appel finalement de l'aventure. Le coureur du Tour, il ne peut compter que sur lui-même.
Il y a un côté qui vous rapproche de certaines émissions de la télévision populaire, c'est ça que vous nous dites ?
Oui, sauf que évidemment, on ne peut pas le voir.
Koh-Lanta.
Alors, je ne dirais pas que c'est une sorte de Koh-Lanta, parce que à Koh-Lanta, même si ces participants sont dans la nature, ils sont entourés par une équipe de télévision, par des médecins, etc. Donc, ce n'est pas tout à fait l'aventure. Là, c'est une vraie aventure parce que il faut qu'ils se cachent des commissaires. Pour ne pas être évidemment pris en faute. On voit aussi tout un discours sur les braves gens, cette vieille qui va évidemment l'aider, qui va remplir son bidon, lui donner du pain. Il y a un côté un petit peu de parabole finalement, presque religieuse, dans cette histoire-là.
Je ne pensais pas que nous allions retrouver Paul Dietschy, la bicyclette, jusque dans une parabole religieuse, mais vous êtes convaincant. Quoi qu'il en soit, l'entre-deux-guerres, puisque le Tour de France a été interrompu pendant la Grande Guerre, voit un autre climat. C'est le temps d'ailleurs où, notamment Albert Londres, le grand reporter Albert Londres, si fameux, traite de ce qu'il a appelé les forçats de la route. Avant la guerre, on considérait que c'était extrêmement positif ce qu'on demandait aux coureurs, pour l'essentiel. On les faisait sortir d'eux-mêmes, en quelque sorte. On répondait tout simplement à une atmosphère créée par des hommes comme Bergson qui, à l'époque, disait en 1912 « Ce que j'estime le plus dans le sport, c'est la confiance en soi qu'il procure. Je crois en une renaissance de la morale française. » Atmosphère d'avant la Première Guerre. Après, les choses vont changer. On voit un homme comme Albert Londres commencer de dénoncer l'excès de ce qu'on demande à ce qu'il va appeler, le mot va faire florès, les forçats de la route.
Oui, parce que le début des années 20, ce sont les années folles. Donc, la reprise du sport-spectacle, qui était déjà installée en 1914, avec une surmédiatisation, avec peut-être aussi l'effet des luttes sociales nées de la Première Guerre mondiale, puisque avant 14, ce qu'on demande aux coureurs, évidemment, c'est un effort considérable. Mais la vie dans les usines, la vie dans les champs, c'est une vie, évidemment, de labeur extrêmement dure. Donc, on peut considérer que pédaler en étant payé, bien évidemment, c'est une situation sociale qui est favorable. À partir des années 20, les revendications sont un petit peu différentes. C'est une profession aussi qui s'est installée, donc qui va commencer à demander des droits, des avantages, et un rapport de force qui s'établit entre les grandes maisons de cyclisme, Alcyon, Excelsior, etc., et les dirigeants du Tour de France, et les cyclistes sont au milieu. Et c'est le début, finalement, dans beaucoup de sports professionnels, de la volonté de faire respecter quelques droits qui semblent évidemment très éloignés du droit commun du travail.
C'est aussi le moment où arrive la grande question du dopage qui compte si fort dans toute l'histoire du Tour de France jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Lance Armstrong.
Oui, c'est l'usage de stimulants. Alors ça, c'est un peu de l'alcool avant guerre, et puis après guerre, de la cocaïne, de la strychnine. Enfin, il y a toute une gamme de produits. Alors,
c'est ce qu'évoque Albert Londres dans son article Les Forçats de la route. Il décrit plusieurs des coureurs les plus notoires, notamment les frères Pélissier, qui s'arrêtent, qui font la grève en quelque sorte. En expliquant, vous n'avez pas idée de ce qu'est le Tour de France, c'est un calvaire. Et encore, le chemin de croix n'avait que 14 stations, tandis que le nôtre en compte 15. Nous souffrons du départ à l'arrivée. Voulez-vous voir comment nous marchons ? Tenez, de son sac il sort une fiole. Ça c'est de la cocaïne pour les yeux, ça c'est du chloroforme pour les gencives. Ça, dit l'autre, vidant aussi sa musette, c'est de la pommade pour me chauffer les genoux. Et des pilules, vous voulez voir des pilules ? Tiens, voilà des pilules. Et il sort 3 boîtes chacun, etc.
Alors évidemment, on se rend compte que ce n'est pas un doping extrêmement bien établi, organisé, scientifique. On prend un petit peu ce qu'on a sous la main pour essayer de se donner du courage. Donc on peut se demander dans ces années-là, avant les années 50, quel est l'effet évidemment de ces produits. Bon, il y a évidemment dans les lignes d'Albert Londres la volonté du sensationnalisme qui est évidemment présent dans les colonnes du Petit Parisien dans lequel il écrit. En même temps, évidemment, ça fait aussi partie de toutes les reportages de dénonciation d'Albert Londres, la traite des Blanches, etc.
Cayenne,
le bagne, bien évidemment. Bon, il est un petit peu abusif, me semble-t-il, de comparer les coureurs cyclistes aux bagnards, évidemment, de l'île au diable.
Est-ce qu'ils sont morts plus jeunes, comme beaucoup des cyclistes d'après 1945, que la moyenne de la population ?
Je ne crois pas qu'ils soient morts plus jeunes, parce que ce dopage, évidemment, n'est pas un dopage régulier. Ce ne sont pas des produits aussi dangereux que vont l'être ensuite les amphétamines. Et puis, évidemment, que sont, depuis les années 90, les stéroïdes ou encore le PO.
Un autre aspect frappant de cette évolution dans l'entre-deux-guerres, c'est le retour du patriotisme, sinon du nationalisme, puisque c'est en 1930 que Henri Desgranges, le grand patron du Tour de France, institue, Suhamet Sponté, vraiment de sa propre initiative, institue les équipes nationales, avec l'idée que cela va réintroduire un ressort nouveau dans l'adhésion populaire.
Alors, c'est Jean-Baptiste Durosel, dans son maître ouvrage La Décadence, qui invitait à étudier pour les années 30 le sport comme nouveau vecteur du nationalisme.
Pierre Milza l'a fait aussi.
Oui. Mais Durosel a été peut-être le premier, et ensuite Milza également a évidemment proposé notamment de beaux articles sur ce sujet-là.
Saluons ce maître de la Sorbonne.
Alors, pourquoi un tour par équipe nationale ? En fait, Desgranges s'aperçoit que les tirages de loto diminuent, et puis surtout il est en butte aux grandes équipes commerciales qui finalement cherchent à protéger leurs coureurs, limitent le spectacle. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que La fin des années 30, elle est marquée par la création de grandes compétitions internationales. Il y a la Coupe du Monde de football, par exemple, c'est les championnats d'Europe dans les années 30. Ce qui fait que c'est aussi replacer le Tour de France dans ce cadre-là et lui donner un caractère international plus affirmé, même si des coureurs belges, luxembourgeois, italiens ont déjà gagné la compétition.
Mais il n'y a pas d'équipe luxembourgeoise. Je crois qu'il choisit l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la France.
C'est une sorte d'Europe des six, en y incluant évidemment l'Espagne, où finalement où il y a cette passion pour le vélo, et d'autant que en Italie, l'Italie a suivi l'exemple du Tour de France avec le Giro d'Italie en 1909, la Vuelta a Espagne à partir de 37. Il faut dire aussi que c'est une forme nouvelle de commercialisation de la nation. Finalement, la nation est une sorte de produit d'appel. Ce n'est pas seulement du nationalisme. On utilise le patriotisme, mais on l'utilise à des fins, évidemment, éminemment commerciales.
Mais on peut dire l'inverse en même temps, c'est une nationalisation du sport.
Oui, c'est une nationalisation des sports, mais plutôt pour finalement relancer le caractère commercial d'une compétition. Et il faut rappeler aussi que l'un des succès du Tour de France dans les années 30, c'est pas seulement ces équipes nationales, c'est aussi la naissance de la caravane du Tour de France qui va proposer des publicités pour Ricless, pour Beer, et finalement tous les produits d'une société de consommation qui commence à apparaître.
Et cela nous surprend aujourd'hui, jusqu'à beaucoup d'alcool et beaucoup de cigarettes. C'est l'époque, dans les années 50, des maillots de l'équipe gitane, ça c'est pour les cigarettes, et des casquettes Ricard.
Oui.
Ces deux types de publicité serait probablement exclue aujourd'hui. Le sont-elles d'ailleurs, je ne sais pas.
Le sont aujourd'hui à cause de la loi Evin, mais dans les années 30, les champions cyclistes se prêtent à des publicités pour Beer, il y a Saint-Zano aussi, les cigarettes. Pourquoi ? Parce que c'est finalement un signe de la virilité qui est celle de ces coureurs et quelque chose qui n'est pas considéré comme une véritable contre-indication à la pratique du sport. Et d'ailleurs, Lucky Strike fait des publicités sur le Tour de France dans ces années-là en disant que c'est une cigarette allégée qui permet évidemment la pratique sportive.
Bien entendu. Alors nous allons passer sur la Seconde Guerre mondiale où s'arrête le Tour de France provisoirement. C'est peut-être l'occasion de saluer un personnage comme Bartali qui est aujourd'hui un juste en Israël, qui s'est comporté magnifiquement, le champion italien, n'est-ce pas ?
Oui, alors Bartali, d'abord, c'est l'antithèse du champion fasciste. Hein, lorsqu'il gagne notamment le Tour de France en 1938, il dédie d'abord sa victoire à la Vierge Marie. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'entraîne dans sa Toscane. Et pour s'entraîner, eh bien, il fait passer un certain nombre de messages entre tout un réseau de monastères qui organisent la fuite des Juifs italiens, notamment hors de la péninsule.
Je voulais le signaler en passant. Mais j'en viens maintenant à un regard plus distancié, celui d'un intellectuel. Roland Barthes, dans son fameux livre consacré aux mythologies, c'est le titre, au milieu des années 50, et qui parle du Tour de France comme une épopée, de la façon que vous allez entendre.
Le coureur trouve dans la nature un milieu animé avec lequel il entretient des échanges de nutrition et de suggestions. Telle étape maritime, le Havre-Dieppe, sera iodée, apportera à la course énergie et couleur. Telle autre, le Nord, faite de routes pavées, constituera une nourriture opaque, anguleuse. Elle sera littéralement dure à avaler. Telle autre encore, Briançon Monaco, schisteuse, préhistorique, englura le coureur. Toutes posent un problème d'assimilation. Toutes sont réduites par un mouvement proprement poétique à leur substance profonde. Et devant chacune d'elles, le coureur cherche obscurément à se définir comme un homme total, aux prises avec une nature-substance, et non plus seulement avec une nature-objet. Ce sont donc les mouvements d'approche de la substance qui importent. Le coureur est toujours représenté en état d'immersion, et non pas en état de course. Il plonge, il traverse, il vole, il adhère. C'est son lien au sol qui le définit, souvent dans l'angoisse et dans l'apocalypse. L'effrayante plongée sur Monte Carlo, le jeu de l'Estérel. L'étape qui subit la personnification la plus forte, c'est l'étape du Mont Ventoux. Les grands cols, alpins ou pyrénéens, pour durs qu'ils soient, restent malgré tout des passages. Ils sont sentis comme des objets à traverser. Le col est trou. Il accède difficilement à la personne. Le Ventoux, lui, a la plénitude du mont. C'est un dieu du mal auquel il faut sacrifier. Véritable Moloch, despote des cyclistes, il ne pardonne jamais aux faibles, se fait payer un tribut injuste de souffrance. Physiquement, le Ventoux est affreux, chauve, atteint de séborrhée sèche, ni l'équipe, il est l'esprit même du sec. Son climat absolu, il est bien plus une essence de climat qu'un espace géographique, en fait un terrain damné. Un lieu d'épreuve pour le héros, quelque chose comme un enfer supérieur où le cycliste définira la vérité de son salut. Il vaincra le dragon, soit avec l'aide d'un dieu, Gaul ami de Phébus, soit par pur prométhéisme, opposant à ce dieu du mal un démon encore plus dur, Bobet, Satan de la bicyclette. Le Tour dispose donc d'une véritable géographie homérique. Comme dans l'Odyssée, la course est ici à la fois périple d'épreuves et exploration totale des limites terrestres. Ulysse avait atteint plusieurs fois les portes de la Terre. Le Tour, lui aussi, frôle en plusieurs points le monde inhumain. Sur le Ventoux, nous dit-on, on a déjà quitté la planète Terre. On voisine là avec des astres inconnus. Par sa géographie, le Tour est donc recensement encyclopédique des espaces humains. Naturellement, l'adhésion du coureur à cette nature anthropomorphique ne peut s'accomplir qu'à travers des voies semi-réelles. Le Tour pratique communément une énergétique des esprits.
Avec l'Odyssée, Paul Dietschy, Roland Barthes rejoint dans l'ordre le plus élevé, ce qui est au fond monnaie courante dans les commentaires des journalistes sur le Tour. Ce texte vous inspire des réflexions? Vous suivez Roland Barthes?
Tout à fait. Il semble que Roland Barthes ait bien lu L'Équipe et toute la presse cycliste, hein, parce que évidemment l'essentiel du récit légendaire du Tour repose sur la confrontation de l'homme seul sur son vélo avec une nature hostile, hein, une nature presque animée.
Et L'Équipe, il faut le dire, qui est le successeur de l'auto après 45.
Tout à fait. Et notamment l'évocation du Mont Ventoux est extrêmement forte. D'abord, il se fait prophète, puisqu'en 1967, coureur anglais Tom Simpson meurt sur les pentes du Mont Ventoux
après avoir abusé
d'amphétamines, différents produits. Mais le Ventoux, quand on le voit évidemment de la plaine du Rhône, c'est quelque chose qui est à la fois menaçant et surtout, le Ventoux, c'est une montagne où la pente est permanente. Donc, une montagne évidemment, comme le dit Barthes, qui ne pardonne pas aux faibles. Et pour terminer avec Barthes, il y a aussi dans ses mythologies quelque chose d'amusant. Il dit que Jean Bobet, le frère de Louison...
Celui qui était licencié d'anglais, ça impressionnait beaucoup.
Et qui roule avec des lunettes, souffre particulièrement parce qu'il doit en quelque sorte expier son statut d'intellectuel.
Alors il faut que nous rejoignions notre actualité dans cette histoire de la bicyclette, Paul Dietschy. Peut-être peut-on dire que ce qui marque les derniers temps, c'est que si, au moment même où le vélo devient un loisir de masse, il cesse d'être un moyen de transport dominant, puisque c'est l'automobile qui devient très populaire. L'arrivée de la voiture pour tous change son statut. Mais c'est aussi le temps où il est le vecteur d'une nouvelle conscience écologique et de santé.
Oui, alors la bascule se fait dans les années 60-70. Notamment en France, en Italie, on n'utilise plus forcément le vélo pour se rendre à son travail, mais pour le loisir en même temps, eh bien, de nouvelles manières de faire du vélo naissent. Alors, elles naissent outre-Atlantique, dans les années 70, c'est le mountain bike qui est inventé par les Américains et qui permet donc de gravir, de descendre des pentes. Le mountain bike est importé en France au début des années 1980 et permet d'explorer finalement, VTT en France, il permet d'explorer de nouveaux chemins finalement, de nouvelles voies pour le cyclisme. Il rend compte évidemment de l'appel de la nature et aussi d'une autre manière de concevoir le sport. Un sport qui n'est plus organisé selon des compétitions, sur la route, dans les vélodromes, mais qui donc rejoint finalement certains sports de glisse qui sont nés aussi outre-Atlantique, donc avec des pratiquants qui veulent se sortir d'un carcan fédéral. Mais le paradoxe, c'est que très vite, le VTT d'ailleurs devient lui-même un objet de compétition et un champion du monde dès 1987. Mais d'un point de vue économique, le VTT est fondamental parce que finalement, il arrive un moment où les vieilles formes de vélo, le routier, le demi-course, le course, se vendent moins. Et donc, il va relancer considérablement le commerce du vélo. Je ne dis pas la production parce que c'est aussi le moment où des firmes comme Peugeot, par exemple, eh bien, réduisent leur production, la délocalisent. D'autres comme MBK, l'ancien moto BK, disparaissent.
Ça, c'est un effet de la mondialisation. Il est tout neuf de voir des champions américains, LeMond puis Armstrong, même s'il a été ensuite découronné après coup, apparaissent comme les vainqueurs du Tour de France. Je parle d'Armstrong. La défense du vélo comme moyen de transport écologique est très liée probablement à la dénonciation du dopage. C'est le moment déjà où Coluche disait que sans le dopage, les coureurs n'arriveraient à Paris que pour Noël.
Alors, le dopage, c'est compliqué parce que dans les milieux cyclistes, hein, amateurs, le dopage était et peut-être encore extrêmement répandu. Ça fait partie de cette culture-là. Donc évidemment, ceux qui dénoncent le dopage, ce sont ceux qui font du vélo avant tout pour pouvoir se déplacer, un vélo loisir. Mais l'une des formes nouvelles du dopage, en tout cas de la tricherie, c'est aujourd'hui l'apparition des petits moteurs électriques. Donc est-ce que le vélo électrique, ce n'est pas finalement une nouvelle forme de tricherie qui est universellement développée? Notamment, c'est une grande question qui est posée dans la montagne. Il y a beaucoup de VTT aujourd'hui qui sont électriques, donc ils vont beaucoup plus vite, qui ont tendance à avoir un effet néfaste sur l'environnement, qui peuvent renforcer l'érosion, avec aussi des querelles d'usagers entre les promeneurs et puis ces cyclistes fous dont parlait Géo Lefebvre.
Eh bien, nous terminerons notre conversation, Paul Dietschy, sur cette ambivalence de cette bicyclette que nous venons pendant une heure d'accompagner avec un mélange de distance et de tendresse. Vous avez publié un livre avec Patrick Classe consacré au thème du sport, de la société et de la culture en France du 19e siècle à nos jours, paru chez Hachette. La bicyclette y a bien sûr une place importante. Hommage soit rendu à propos du Tour de France au livre de Jean-Luc Boeuf. C'est un fonctionnaire des collectivités territoriales qui en même temps a beaucoup de curiosité de ces choses et qui avec Yves Léonard a publié La République du Tour de France 1903-2003 au Seuil. Puis vous avez des projets naturellement comme tout bon universitaire, comme tout bon chercheur. Paul Dietschy, qu'est-ce que vous allez nous offrir prochainement?
Alors au mois de septembre, un livre sur le sport et la Grande Guerre qui paraîtra dans une petite maison d'édition dédiée au sport, Chistera. Et puis, à la fin de l'année ou début 2019, un dictionnaire historique du football chez Perrin.
Dictionnaire amoureux, en somme?
Oui, mais aussi critique, mais surtout qui essaiera de montrer comment, finalement, le football permet d'expliquer l'histoire et la grande histoire.
Je voudrais aussi renvoyer un beau livre qui est déjà vieux de 20 ans, mais qui est très riche en photographies de toutes sortes. C'est un album d'images magnifique qui est dû à Pryor Dodge, La grande histoire du vélo chez Flammarion. On voit là ressurgir tout un univers iconographique. J'y renvoie nos lecteurs, ce livre est accessible assurément en bibliothèque. Vous savez, mes chers auditeurs, mes chères auditrices, que vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. J'ai hésité à vous donner à entendre la chanson si fameuse et si belle d'Yves Montand, À bicyclette. J'imagine, Paul Dietschy, que vous la connaissez par cœur.
Tout à fait.
Vous pourrez, mes chers auditeurs et chères auditrices, écouter, bien sûr, et écouter, podcaster cette émission. Samedi prochain, nous parlerons de la Sibérie démesurée, avec Éric Heusly. Quant à Emmanuel Laurentin, dans la Fabrique de l'Histoire, à 9h, chaque jour de la semaine prochaine, il consacrera son émission à l'histoire de la justice.
Est-ce que la bicyclette n'est pas le meilleur moyen de se promener au grand air, dans un sentier de forêt? Et puis, il n'y a même pas que cela. Est-ce que la bicyclette n'est pas aussi le véhicule le plus élégant, le véhicule qui se marie le mieux avec la ligne féminine? Une femme sur une bicyclette, est-ce que ce n'est pas vraiment le triomphe de l'élégance et de la grâce?
Bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée comme chaque samedi par Anne Kobilac, avec à la prise de son Bruno Mourlan, à la discothèque Nathalie Rouvillain et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Annie Lozana, Inès Barja et Samantha Schmitt. Elles étaient trois cette semaine. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.